Welcome back to the second half of the afternoon session. As John mentioned, my name is Peter Fernando. I'm a professor of ancient history at the University of Chicago and a longtime professional colleague of John. And I would like first, on behalf of the University of Chicago, simply to say what a pleasure it is to be here and how fruitful the collaboration between the College and the University of Chicago has been, and in addition, a broader set of connections of which this is one part between the University of Chicago and colleagues in the history of religions at the in Chicago and a variety of colleagues at the multiple educational and research institutions in Paris, which has led to many, many fruitful years of collaboration. And for John's role in all of this and for the support provided by the College for these forms of collaboration, we are very grateful. So just to presume, we have two more papers this afternoon. The next is by John himself, Transfert de Dieu et du culte d'Orient en Occident entre le IIIe siècle avant et le IIIe siècle après Jésus-Christ. John.
Merci, Cliff. Oui, je m'excuse, je parle d'un sujet qui, pour les spécialistes de cette période, semble un peu être une tarte à la crème, mais c'est aussi un argument où je trouve qu'on raconte n'importe quoi et qu'on oublie toujours la moitié des données. Donc je vais un peu vous exposer ça. Je vais d'abord, rapidement, j'abrégerai même peut-être vous rappeler les principales données sur ce qu'on raconte et ensuite pointer un certain nombre d'incohérences et d'absurdités ou d'oublis. Depuis le philosophe Hegel et puis presque un siècle, enfin un demi-siècle plus tard, Renan, ici même, il est courant en histoire des religions de pointer la venue des cultes orientaux d'Asie mineure et l'influence décisive qu'ils auraient eue sur l'évolution religieuse de l'Occident. Il est clair que le thème sous-jacent à cette affirmation est l'histoire de la transplantation du christianisme venu d'Asie mineure, si tant est qu'il existe un lien entre cette religion qui a réellement suscité un changement et les religions antérieures dont je parlerai. La raison de ce succès des transferts culturels ou théologiques d'Orient en Occident résiderait dans le fait que ces cultes aurait mieux satisfait l'aspiration des anciens à la spiritualité, donnée comme une inclination religieuse naturelle et universelle. Face au ritualisme ancestral de la plupart des religions antérieures, les habitants du monde antique y auraient trouvé la véritable religiosité qui s'adressait à l'individu et un supposé besoin de religiosité que lui auraient nié les religions traditionnelles. Ce thème de la recherche d'une religiosité privée et personnelle, tel qu'il fut défini au début du XIXe siècle, n'a toujours pas disparu. Il jouit même d'un engouement nouveau depuis quelques années. Or, si l'on se fonde sur les sources plutôt que sur les théories ou les idéologies et les théologies modernes, la question est nettement plus complexe. C'est ce que j'essaierai de démontrer brièvement à l'aide de trois données. D'abord, les cultes qui sont censés avoir révolutionné religieusement les habitants du monde romain, furent en fait transférés en Occident en vertu de décisions et d'initiatives publiques et collectives. Ce point-là, on l'a déjà répété de nombreuses fois. Ensuite, le transfert ne se fit pas exclusivement dans le sens est-ouest. Et enfin, les pratiques les plus individuelles témoignent également de l'existence de certaines de ces pratiques culturelles dès le 1er siècle, bien avant leur attestation en Orient. Donc il y a l'argument, je passe rapidement sur l'argument le premier que je disais, mais le deuxième montre que les passages d'Est en Ouest ne sont pas ce qu'on pense, en général, pas seulement pour ces religions-là, mais on oublie quelques cultes très importants qui ont vécu jusqu'à l'époque byzantine et qui sont partis dans l'autre sens et qui ne sont pas à la recherche d'une nouvelle spiritualité. Et enfin, dans certains domaines, le point de vue chronologique qui est essentiel dans cette dynamique qui remonte à Hegel, par exemple, pour prendre le premier à l'époque très contemporaine qui en parle, n'est pas du tout ce qu'on pense en général. Commençons par les cultes qu'on a appelés cultes orientaux et qui seraient une nouveauté répondant aux aspirations religieuses intimes des Romains, les cultes de Cybèle, d'Isis et de Ma Bellone, je précise cela, ou de Mitra, pour ceux qui ne sont pas familiers de ces choses-là. Il est vrai que ces trois cultes provenaient du Proche-Orient, de Pessinonte en Galatie pour la mer, d'Égypte pour Isis et Sarapis, de Cappadoce pour Ma Bellone, ou plus généralement du Proche-Orient pour Mitra. Mais s'agit-il de cultes installés à Rome par des particuliers afin de satisfaire des besoins religieux nouveaux ? Rien n'est moins vrai. Comme il était advenu plus tôt à Athènes, des siècles avant, la grande mère fut appelée à Rome par le Sénat à la fin de la Deuxième Guerre punique, vers 200 avant Jésus-Christ, disons, en vertu d'un oracle sibyllin confirmé par celui de Delphes, donc la façon la plus officielle possible. L'objectif n'était pas personnel, mais public et collectif. La Mater Magna devait aider le peuple romain, l'État romain, de mettre un terme à cette guerre contre les Carthaginois en chassant enfin d'Italie Hannibal et ses troupes. La déesse reçut un temple public au Palatin, situé précisément à côté du temple de Victoria, ça vous dit pourquoi elle est venue, et un culte, elle reçut ensuite un culte public. Mais conformément aux traditions de transfert de certains cultes, un personnel sacerdotal particulier lui fut attribué, un prêtre ou une prêtresse, sous le contrôle d'un collège sacerdotal romain, et qui contrôlait le culte et gérait l'application, en fait, de la recommandation de l'oracle sibyllin qui avait invité à faire venir la mère, comme il disait. Un collège, celui des dendrophores, participait aux fêtes annuelles de la mère. Autour du temple aussi et de ses rites vivaient des Galles, des hommes qui s'étaient châtrés en l'honneur de la déesse, mais comme Françoise Van Haperen l'a montré récemment, il semble qu'il s'agisse d'un groupe socialement inférieur qui ne fait pas partie du vrai clergé du culte, comme on l'a toujours soutenu. La castration a fait beaucoup fantasmer les anciens, païens ou chrétiens, et bien sûr aussi et surtout les modernes. C'est certes une manifestation religieuse relativement violente qui attribue à la divinité un rôle et un pouvoir très fort et aux personnes concernées certainement au moins une grande exaltation. Mais est-ce une nouveauté culturelle ? En lisant les sources qui évoquent ces comportements extrêmes, on pense inévitablement à ce que racontent par exemple les Grecs et puis aussi les Romains sur les fêtes de Dionysos. Et quand on pense aussi au comportement des femmes possédées par Dionysos, qui pouvaient aller jusqu'à déchirer des victimes humaines, c'est en tout cas ce qu'on disait. Les fêtes de la Grande Mère sont des fêtes publiques du peuple romain, avec des jeux de théâtre près de son temple au Palatin, des banquets entre grandes familles prétendues troyennes. La Grande Mère du mont Ida aurait aidé les Troyens d'aînés à s'échapper de Troie en flammes, donc c'est vraiment la mère, si vous voulez, du peuple romain. Puis il y avait des processions qui emmenaient chaque année la déesse baignée au premier mille de Rome, qui est la limite à cette époque, au deuxième siècle, de la ville de Rome, pour se baigner dans un fleuve qui était là, dans l'Almo, et qui devint sous l'Empire une joyeuse procession de type carnavalesque. En tout cas, rien dans tout cela ne ressemble à une puissante aspiration à la spiritualité de type moderne. L'interprétation philosophique que fait Julien du mystère de Cybèle et d'Attis ou des rites de la grand-mère ne dit en tout cas rien de tel, et nous sommes alors déjà à une époque plutôt tardive. Et dans les pays grecs où la déesse possédait aussi des lieux de culte, Julien, justement, commence par le rappeler, rien de tel non plus. Isis, quant à elle, recevait, c'est vrai, longtemps un culte privé, mais pas suivant les modalités que l'on pense, que la théologie protestante imaginait. Un culte privé n'est en effet pas un culte personnel dans le sens moderne. Les dieux alexandrins étaient au IIe siècle les divinités des collèges de trafiquants de blé installés sur l'île de Délos. Et le choix de cette déesse pour être la déesse corporatiste, si vous voulez, est sans doute dû aux relations commerciales des marchands de la Méditerranée avec ceux d'Alexandrie. Ces Italiques et Romains ont ramené ensuite ces pratiques cultuelles collectives, professionnelles, corporatives, à Rome et en Italie. Et vers la fin du IIe siècle, il existait, par exemple, à Rome, un Iseum Metellinum fondé par un Metellus inconnu, rattaché à cette grande famille romaine, et qui doit être en relation avec ce type de collège. D'autres communautés isiaques privées furent fondées, comme le collège des Pastophores, dont l'origine remonte à l'époque de Sylla, donc vers 80 avant Jésus-Christ. Pareillement, les artisans de Rome qui soutenaient le tribun Claudius au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ vénéraient également les dieux égyptiens. Il leur avait même offert un autel devant le temple de Jupiter au Capitole. Il y a eu des histoires à ce propos. Et encore sous Tibère, nous entendons, donc là nous sommes vers 20 après Jésus-Christ, nous entendons qu'Isis est bannie d'un temple qu'elle possédait en raison d'un scandale qui relève de l'histoire des mœurs à être expulsée au-delà du premier mille. Mais aucun de ces temples n'est public, ni lié à une piété d'un type nouveau. Le premier temple officiel fut construit, c'est une hypothèse que je me suis permis d'émettre, et elle a été acceptée par certains, fut construit aux divinités alexandrines vers 70 après Jésus-Christ, parce que ceux-ci, Isis et Sérapis, avaient soutenu le parti flavien, le parti de Vespasien, au cours de la guerre civile. À en croire Apulée, les Pastophores reçurent l'injonction, l'ordre d'assurer le sacerdoce dans ce temple du Champ de Mars, près du Panthéon que vous pouvez voir encore actuellement à Rome, il y avait ce grand temple. En tout cas, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur la naissance de ce temple public, on voit que les Isiaques étaient toujours des communautés privées, mais liées à des activités collectives ou publiques. Et c'est par un vœu impérial, finalement, lié à une guerre, que le culte des dieux d'Alexandrin, ainsi que le collège des Pastophores, reçurent un statut officiel, un peu comme dans le cas de la mer. Le transfert de ces cultes fut donc fait sous le contrôle des autorités et non par des missionnaires. Pour le culte de Ma Bellone, que je cite en passant, il en allait de même puisqu'il s'était développé dans l'armée de Sylla, Sylla qui avait dans son entourage une prophétesse attachée à cette déesse. Mais ce culte demeura assez populaire, même si des relations existent entre Ma Bellone, c'est la traduction latine qu'on donnait, et Cybèle, puisque Ma Bellone est régulièrement appelée Pédicéqua suivante de la seconde. Je n'insiste pas sur Esculape, qui vint aussi de l'Est, mais de Grèce, et qui a été également installé à Rome, non pas par des missionnaires, mais par le Sénat et les magistrats romains. Pour Mitra, les choses sont différentes dans la mesure où il est toujours resté un dieu de communauté privée. On dit qu'il est venu de Rome à Rome et en Italie vers les années 60-70, avec l'armée de Syrie au moment de la même guerre de Vespasien contre l'empereur Vitellius. En tout cas, même si tous ses fidèles ne sont pas des militaires, un nombre important le sont, comme le sont aussi les fonctionnaires de tout genre. Donc même si ce culte comporte, ainsi qu'un certain nombre d'autres, des initiations et des mystères, que nous ne connaissons d'ailleurs toujours pas de façon satisfaisante, il concernait davantage des communautés de serviteurs de l'État que des individus cherchant le salut de leur âme immortelle. Parlant d'armée, passons au deuxième thème, si vous voulez. Nous pouvons observer un fait intéressant dans ces transferts. Tous les transferts cultuels ou de divinités ne se font pas, en effet, d'est en ouest, comme on le répète depuis au moins la fin du XVIIIe siècle, mais aussi en sens contraire. Je vous renvoie à ce propos à un article... un article de Ted Kaiser, à côté d'un papier de Cliff Ando, ici présent, qui démontre que tout cela ne reflète aucune volonté de diffuser la religion romaine. Hein. Et Kaiser, quant à lui, évoque toute l'ambiguïté des cultes en Orient sous l'Empire et les nombreux contacts qu'il y eut entre cultes grecs et romains et cultes locaux en Orient. Regardons seulement deux exemples. Il y a d'abord le dieu typiquement romain, Sylvanus, qui apparaît dans cette liste de divinités qui vient de Syrie, de Zeugma, où vous avez Jupiter, vous avez Sylvanus, Conservator, vous avez Sol Divinus, hein, l'orthographe est assez, disons, musclée, c'est des militaires, donc, qui célèbrent, qui fondent quelque chose là-bas, il y avait un petit temple, on ne sait pas quoi, et qui honorent Sylvanus, qui n'est même pas un dieu d'État romain, c'est un dieu qui est honoré dans les familles, par les esclaves, souvent, puisque Sylvanus, c'est le dieu de l'élément de la silva, sauvage, c'est l'extérieur, si vous voulez. Et les soldats romains, dans la mesure où ils se promenaient sur la frontière, qu'ils chassent dans les forêts de Germanie pour capturer des ours ou autres bêtes pour le cirque, ou qu'ils chassent le barbare, honoraient, c'est né en Germanie et sur le Danube, le dieu Sylvanus. Et c'est un exemple où ce dieu a eu la possibilité de se défendre, de se diffuser à Zeugma. En tout cas, il y avait un petit sanctuaire là, une chapelle, Dieu sait quoi, où il avait cela. Et c'est des soldats donc, d'une unité de la 4e Citique qui illustrent ce type de transfert. Et par ailleurs, ces transferts liés à l'armée romaine ne sont pas uniformes. Mitra, je l'ai dit, dont le culte est diffusé par les militaires, mais moins qu'on ne l'a prétendu, ou plutôt par les officiers, n'est pas attesté dans une grande province militaire qui est la Germanie supérieure, où il y a toute une série de légions, mais pas de mitra, on ne sait pas pourquoi, et, ou en Égypte, où il y a aussi de l'armée et pas de mitra. Ce qui permet de conclure que son culte ne concernait en fait que certaines armées et certaines provinces, qui montrent encore une fois des liens collectifs à certains cultes. À Rome, on ne peut rien dire, puisqu'à Rome, on a tout, si vous voulez, c'est tout l'Empire qui conflue, et tous les fonctionnaires et tous les militaires. D'autre part, les divinités des cités voisines des camps militaires se liaient à ceux-ci à tel point que ces divinités étaient souvent représentées en tenue militaire romaine. Elles n'étaient pas les dieux du camp, mais elles étaient les divinités qui se voyaient comme romaines à cause de ce voisinage et cette fréquentation réciproque, je suppose. Ainsi, Horus, Harpocrate et Anubis sont représentés de cette manière en Égypte, Yaribol et Malak Bel en Syrie, et plus généralement, Jupiter Optimus Dolichenus de Dolichae est en tenue militaire romaine. Jupiter Optimus Maximus Dolichenus, notamment, est très en faveur chez les militaires et les personnels d'administration à nouveau, et il semble, à mon avis, il est assez clair qu'il tire cette familiarité, cette popularité, du fait qu'il y avait une base romaine traditionnelle importante à Dolichae, en Commagène. Dolichae, la cité dont le dieu était originaire, donc encore un dieu militaire, si vous voulez. Et l'on arrive à cette situation étrange que la première attestation du culte de Dolichenus en Crimée méridionale soit due un lieu de culte fondé non pas par des missionnaires ou des âmes inquiètes de leur salut entre 139 et 161 après Jésus-Christ, mais par une vexillation, un détachement de l'armée de Mésie inférieure venant du Danube, et c'est de Rome donc que le culte est venu dans quelques-uns des camps légionnaires de Mésie. Donc on a cet étrange ce cercle, si vous voulez. En Orient, vous avez un grand campement de militaires à Dolichae. Les soldats sont familiarisés avec ce culte et ça devient leur culte constitutif. N'oubliez pas que nous sommes en régime polythéiste, et s'il y a un dieu local important qui plaît, ben on l'adopte, il n'y a aucune raison. Il va à Rome, et on trouve des lieux de culte de la même époque à Rome, et de Rome, avec ses militaires, il part sur le Danube et puis en Crimée, au lieu que le chemin ait été beaucoup plus naturel dans l'autre sens, hein, de passer de Dolichè, de Commagène, en Crime. Et c'est Tadeusz Sarnowski et ses collègues qui ont trouvé ces inscriptions. Il convient donc d'être très prudent quand on raisonne sur les transferts de divinités et de cultes, notamment sur les cultes dits orientaux, car ils sont souvent liés à la culture religieuse d'unités militaires déplacées, pour ne pas mentionner les colonies, qui emportent aussi des divinités romaines, et qui doivent même, en fonction de ce fameux oracle que je vous ai cité de 200 avant Jésus-Christ, installer en tant que Romains chez eux un culte de Cybèle, de la mère, de la Mater Magna des dieux. Donc ce n'est pas par inquiétude spirituelle, mais c'est parce qu'il y a un règlement qui les y oblige. Et ils étaient contrôlés par ces prêtres dont je vous ai parlé. On a un texte encore du IIIe siècle où même en Italie, ils contrôlaient si une colonie... Quand une colonie changeait de prêtre, ils voulaient savoir, et c'était eux qui investissaient le prêtre, etc. Donc, un certain nombre de prudence. Depuis longtemps, tout cela est connu, et je passe sur ça, et par exemple, le cas de Mithra est le même. Mithra fut introduit en Mésie, dans les camps de Novae et d'Oïskous, en Bulgarie actuelle, à la fin du 1er et au début du 2e siècle. Le mouvement est le même que 4 siècles plus tôt, celui d'Esculape, vers les colonies et les municipes romains d'Italie et d'au-delà, non pas de Grèce, d'Argolide, mais de Rome, où le Sénat l'avait appelé. Vers 292, Esculape est appelé à Rome, tout à fait officiellement, par une ambassade. Il s'installe à Rome et de là, il commence à aller dans les colonies romaines d'Italie, puis sur le Danube, sur le Rhin, etc. Et il continue de voyager pour atterrir finalement de cette manière-là. Mithra fait le même chemin pour aboutir finalement en Bulgarie. Ce n'est pas du tout le chemin direct. Et ces migrations donnent un exemple de ce qui se passe. Un autre bel exemple est donné par la construction sous les Flaviens, sous Vespasien. Je vous avais dit qu'il avait créé le grand temple du Campo Marzio par deux temples jumelés de Mayence. C'était deux affranchis impériaux, vous avez les inscriptions, qui avaient créé à cet endroit, à partir de 70, enfin c'est le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ, ces cultes associés de Cybèle et d'Isis, Pro Salute et Augustorum, Senatus Populi Quae Romani et Exercitus. Ils ont créé ces temples, deux cultes orientaux donc, pour le salut des Augustes, Titus et Vespasien, pour le Sénat et le peuple romain, c'est-à-dire l'État romain, et pour l'armée, où est la spiritualité. Comme Mary Beard, John North et Simon Price l'avaient déjà signalé dans leur manuel, il est amusant d'ailleurs de constater que Rome diffusa dans le monde des cultes qui à Rome même étaient qualifiés d'étrangers, venus d'ailleurs, et qui devenaient des marqueurs de romanité. Il n'y a toutefois pas seulement les cultes orientaux qui voyagèrent d'est en ouest, et aussi dans l'autre sens. Ou alors, comme le culte de Mithra, ne se répandirent pratiquement qu'en Occident. Il y a d'autres cultes qui se diffusèrent en raison de l'unification de la Méditerranée. En premier lieu, et c'est ce qui est très souvent oublié, ce que nous appelons le culte impérial. Généralement, nous ne tenons pas compte de ce culte, soit parce que nous présumons tout simplement, de façon assez superficielle, qu'il existait déjà en Orient, puisque les Romains sont censés, d'après les historiens modernes, l'avoir copié sur les rois hellénistiques, soit parce qu'il ne s'agirait pas d'un véritable phénomène religieux. Le deuxième argument, qui est plus répandu qu'on ne le pense, et qui consiste à assimiler le culte impérial à une simple pratique politique, explique qu'il était impossible et même scandaleux de mettre ce type de culte à côté de cultes et de dieux comme ceux de Cybèle, Isis, Mithra ou les cultes à mystère, qui sont censés, d'après ceux qui ont fondé ces traditions, citons Renan, puisque nous sommes dans ces murs, qui sont censés mener tout droit vers le christianisme. Pourtant, avec le culte dit impérial, il s'agit d'un culte du même type que les autres, et qui d'ailleurs ne se contentait pas de vénérer, comme on le dit depuis le nain de Tilmont, et très loin la patristique, de vénérer des hommes vivants. C'était nettement plus compliqué. Le culte impérial, on ne le comprend que si on regarde les rites, ce qui se passe réellement. On ne le fait pas. L'autre argument qui explique le silence sur l'exportation du culte impérial romain, son emprunt aux royaumes hellénistiques, ne tient pas davantage, car le culte romain des divi, des empereurs divinisés, et du génie de l'empereur vivant, ce sont ça les deux formes dont on célèbre ce culte en milieu romain, n'était pas du tout la même chose que le culte royal ou même le culte à l'égard de bienfaiteurs tel qu'on pouvait le voir dans les cités d'Asie mineure, comme notre regretté ami Simon Price l'a démontré voici longtemps déjà. Non seulement le culte des rois et autres bienfaiteurs ne s'accordait pas, n'accordait pas à ceux-ci une nature divine, mais seulement, et de leur vivant, des titres et des honneurs égaux à ceux qui revenaient aux dieux. Après la mort du titulaire, la plupart de ces cultes cessaient pratiquement immédiatement, contrairement à ce qui se passe à Rome, où la divinisation des défunts signalait la naissance d'un nouveau dieu, carrément, immortel désormais. Une pratique comme la divinisation d'un défunt ne correspondait pas aux pratiques grecques. Et il suffit de lire l'édit embarrassé du culte du proconsul Paulus Fabius Persicus, un frère Arval, je le signale pour les connaisseurs, en 44 après Jésus-Christ, cet édit aux Éphésiens, dans lequel il essaye de leur expliquer que Julia Augusta Livy, je vous montre le texte traduit, que Julia Augusta, c'est-à-dire celle que nous appelons couramment Livy, l'épouse d'Auguste, avait été divinisée et qu'il convenait de lui installer un culte. Il s'agit d'accorder les mêmes honneurs dans cette affaire où il règle, le proconsul règle des questions de préséance, de hiérarchie, de devoir, etc., plus ou moins oubliées. Il s'agissait pour lui de faire accorder les mêmes avantages au cœur d'Auguste et à celui de Livy, qui chantait les hymnes en l'honneur de Livy, comme il y avait ceux qui chantaient depuis 14 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, les chœurs en l'honneur d'Auguste. Livy, je cite, qui a maintenant reçu, elle aussi, de l'empereur Auguste, ça c'est Claude, notre prince très pieux et très puissant, l'honneur céleste qui lui était dû depuis longtemps. Et donc il faut demander pour ces hymnodes les mêmes droits que ceux que possèdent ceux qui chantent les hymnes pour les divins Augustes, c'est-à-dire Auguste lui-même et Claude, divinisé, pas encore Claude, puisque le Sénat et le divin Auguste ont considéré digne de l'immortalité et l'ont divinisé, elle qui était déjà honorée en vertu de lois sacrées. C'est pas du mauvais grec, mais je défie quiconque parmi les hellénistes présents de comprendre ce que ce charabia veut dire. Le proconsul entendait simplement expliquer deux choses, que l'application de la décision de la divinisation de Livy suivit de 12 ans la mort de l'Augusta, parce que Tibère avait toujours bloqué la divinisation de sa mère, même si le Sénat l'avait décidé. Et en plus, il fallait décider, expliquer aux Romains, aux Grecs, qu'après sa mort, on peut être divinisé, et surtout tant d'années après sa mort, et en vertu d'un décret. Il est vraisemblable que ce n'est que peu à peu que les Grecs ont compris ce qu'était le culte d'un divus, s'ils l'ont jamais compris. Les péripéties romaines de la divinisation de Livy et le texte du proconsul en témoignent. Autant dire que c'est un culte typiquement romain, importé dans un nombre innombrable de cités du monde grec et qui devait leur être expliqué. Ils l'adoptaient et ils s'installaient pour désormais fonctionner. Ce n'est pas un simple geste politique, il fallait vraiment qu'ils le fassent fonctionner. Et puis, pour ce qui concerne le culte à la romaine de l'empereur vivant, leur apprendre ce qu'était le génie de l'empereur vivant ou son noumen, sa puissance divine, ce n'était pas non plus chose aisée. Les Romains ne vénéraient jamais directement l'empereur. Seuls des tyrans ont dit que Caligula, Néron, Domitien ont dit qu'ils ont voulu être honorés comme un dieu. Or, c'est faux parce que toutes les sources nous montrent que dans le monde latin, romain, de culte romain, si vous voulez, c'était le genius, le génie, ce double divin qui naît avec un être au moment où il est accouché, où il naît, et qui va mourir aussi avec lui le jour de la mort. Donc cette espèce d'ange gardien, si vous voulez, qui représente le double divin d'un être humain, le genius de l'empereur vivant, c'est comme cela qu'on le vénérait. Ce n'était pas scandaleux, puisque chaque Romain, chaque père de famille, chaque masculin, chaque mâle avait son génie. Et ses esclaves, ses enfants, sa femme le vénéraient. Et depuis l'Empire, chaque femme a sa Junon, c'est le terme qu'on emploie, et on rend aussi culte dans les familles à la Junon de Madame. Et désormais, depuis Auguste, nous trouvons des cultes au génie d'Auguste et à la Junon de Livy. Allez expliquer ça aux Grecs. La notion de la tuque, alors le noumen, c'est la puissance divine de l'empereur qui pouvait aussi être vénéré. Les Grecs n'avaient jamais entendu cela. Donc c'est des choses plutôt compliquées pour des non-romains. Et ça va plus loin parce que le concept du genius dépasse de loin le culte impérial puisqu'il s'appliquait également, je vous l'ai dit, à tous les individus. Et on voit naître progressivement un culte de la tuque, de la fortune littéralement, d'un tel ou d'une telle en pays grec. La tuque d'un tel ou une telle n'était pas inconnue en Grèce hellénistique, mais cela fonctionnait dans un sens plus banal, comme nous disons que quelqu'un est chanceux. La chance d'un tel est incroyable, mais ce n'est pas la même chose que rendre un culte à la chance de monsieur. Et des Grecs ont pris le nom de tuque comme traduction de genius ou iuno. Ils auraient pu prendre le daimon, le démon, cette petite divinité qui connaissait celui de Socrate, qui vivait dans chaque être, et c'est un peu cela, si vous voulez, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris la tuque, qu'on connaît très rapidement à Rome et ailleurs en grec. Et là aussi, c'est un grand changement. Et c'est la preuve, puisque c'est des divinités compliquées, complexes, que les Grecs ont vraiment adopté ce genre de culte. En tout cas, il y a toujours autour de ces questions des études à faire, et notamment expliquer pourquoi ils n'ont pas pris le daimon, par exemple, pour le genius. Enfin, c'est des problèmes internes, si vous voulez. C'est ce que demande. Ce sont là donc un certain nombre de problèmes qui se posent quand on examine ces questions de transfert d'Est en Ouest et d'Ouest en Est cette fois-ci. Et le troisième exemple que je voudrais évoquer met en évidence le deuxième problème que cela pose, c'est-à-dire celui de la chronologie, qui joue évidemment un grand rôle dans le mythe moderne des cultes orientaux. Et la chronologie est très floue dans tout cela, et cette énorme mutation se ferait en gros entre le premier, à la fin du premier et au deuxième siècle après Jésus-Christ. Et puis après, c'est vers le troisième, le quatrième siècle que ça porterait ses fruits. Je prendrai comme exemple la pratique la plus privée qui soit, la plus individuelle qui soit, la magie, qui est la pratique cultuelle quotidienne des anciens, le corpus magique, qui jusqu'à présent nous était connu essentiellement par des papyrus du IVe siècle. Avant, on avait pas grand-chose. On avait des poèmes, on avait des allusions dans la littérature, mais aucun document direct. Les idées que nous trouvons dans la magie sont censées affluer progressivement vers le monde occidental et être compris plus ou moins bien. Or, des documents récents prouvent que ces courants et pratiques existaient déjà au 1er siècle dans le monde occidental, et même dans des cités invraisemblables, comme Chartres dans la lointaine Gaule. À l'époque, hein, il faut voir ce qu'était Chartres. Contrairement aux prêtres du quotidien, qui sont investis de leurs fonctions par les humains, les électeurs ou par les sénateurs, les magiciens demandent généralement, avec l'aide de démons, leur union avec une divinité et l'octroi de pouvoir. Ce sont des choses dont on entend parler à la fin du 3e, au 4e siècle, et le grand papyrus magique du Louvre, qui date du 4e siècle précisément, contient une longue description de cette sorte d'initiation, éventuellement faite avec un mystagogue. La prière que nous n'allons pas lire, elle est énorme, n'est-ce pas, s'adresse au tout-puissant Typhon du royaume de là-haut, monarque et prince, dieu des dieux, souverain, prince des ténèbres, etc., qui amène la foudre. Il s'adresse manifestement à une divinité très puissante, un monstre qui correspond, dit-on, au dieu Seth en Égypte. Le magicien rappelle au dieu qui lui a rendu des services, qu'il s'est battu avec lui contre des dieux et a fait avec lui d'autres exploits. C'est un peu son ami, son compagnon dans des luttes, etc. Puis, on en vient au sujet de la demande. Moi, ton soldat, je suis vaincu par les dieux, je suis là sur le dos jeté par terre à cause d'une vaine colère. Éveillé, je t'en prie, mon ami, je t'en supplie, ne me jette pas par terre, roi des dieux, donne-moi la force, je vous passerai sur les borborygmes, donnez-moi la force, je t'en prie, et donne-moi la grâce lorsque je dirai à un dieu de venir, que je le vois à l'instant à cause de ses incantations. Or, pour vous faire comprendre que ce genre de prière et d'initiation que vous pouvez lire dans le grand papyrus, comme j'ai dit, au Louvre, ou de façon plus simple dans le manuel sur la magie de Fritz Graff, ne sont pas le propre de l'Égypte du IVe siècle. Pour cela, pour vous le montrer, que ce ne sont pas des choses réservées aux pays orientaux et qui seraient venues à cette époque de là-bas, ou qui auraient été imparfaitement saisies avant, je vous montre les documents suivants. D'abord, les documents découverts à Chartres et publiés par Dominique Joly. Je vous montre brièvement la bibliographie. Il s'agit d'une maison romaine qu'on a trouvée par hasard dans Chartres et d'une cave qui contenait un ou plusieurs meubles et des coffrets dans lesquels étaient rangés divers objets datables du 1er siècle après Jésus-Christ. Parmi ces objets, trois brûles-encens, voilà les brûles-encens en question, dont deux portaient une inscription identique. Cette inscription dit, évidemment, c'est plus court que le papyrus magique, mais elle dit « Je vous demande, omnipotente puissance divine », donc la même façon de s'adresser à quelqu'un de très puissant, « de donner tous les biens à Gaius Verius Sedatus », donc un citoyen romain, « puisque celui-ci est votre gardien ». Donc toujours cette complicité, « je suis votre défenseur, je suis avec vous », etc. Et puis les fameux borborygmes. Cette inscription est répétée quatre fois vers les quatre points cardinaux appelés septentrion, vous le voyez là, Occident, Midi et Orient. La première information apportée par ces brûles-encens est d'ordre chronologique. Généralement, les documents réunis dans les papyrus grecs magiques que nous avons cités sont datés des 3e, 4e siècles. Et ceux qu'on avait trouvés, par exemple, à Rome ou ailleurs, à Carthage, sous forme de, on appelle ça des défictions, des enclouages magiques en plomb, des lamelles de plomb, étaient aussi, comme ça n'avait pas été bien fouillé, nageaient vers le 3e siècle, parce qu'on disait, on avait les sources papyrologiques. En outre, donc, nous sommes ici au 1er siècle après Jésus-Christ, Et on voit que ces techniques, même sous forme résumée ou exprimée autrement, existaient déjà. Et cela se fait même, non pas à Alexandrie ou à Rome ou à Carthage, mais en Gaule, à Chartres. À ce jour, seul un phylactère magique a été daté de cette époque. Ce qui nous garantit que ces traditions circulaient depuis longtemps dans le monde antique, bien au-delà des frontières de l'Égypte. Et on constate, je vous l'ai dit, que le propriétaire de ces objets commandait au Dieu Tout-Puissant dont il prétend être le gardien. Et vous pouvez donc voir que ça n'a pas changé le monde. La religion traditionnelle a continué encore pendant des siècles avant de péricliter, et pas pour devenir la magie ou un culte oriental, ou en tout cas un culte oriental très particulier. Nous ignorons le reste des pratiques de M. Sedatus, malheureusement, et nous ne savons pas ce qu'il fait, mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'indices d'un culte régulier, mais c'est peut-être une sorte de sorcier, de mage, de philosophe qui pouvait assister quelqu'un, donner son aide, invoquer un dieu, ces dieux tout-puissants, pour qu'il porte secours à un de ses amis ou un de ses clients. Je terminerai par d'autres documents découverts à Mayence, dont j'ai déjà parlé, dans les deux temples que je vous ai mentionnés, qui ont été excellemment fouillés. Et c'est pour cela qu'ils nous apprennent des choses. Donc, temple d'Isis et de Cybèle, et qui prouve une fois de plus qu'à la fin du 1er siècle et au début du 2e, les pratiques magiques avaient entièrement assimilé le vocabulaire, non pas des traditions orientales, mais des traditions occidentales, du vocabulaire de la religion romaine la plus banale. Je passe sur les rites votifs qui sont utilisés dans ces inscriptions. Oui, ça, c'est l'inscription de choses. Je passe sur les termes votifs, parce que beaucoup de ces malédictions magiques sont des vœux qu'on fait à l'égard de ces divinités qui patronnent la magie. J'insiste pas sur cela, en disant simplement que ce sont le même vocabulaire et les mêmes rites que les vœux publics ou privés utilisaient, faisaient au grand jour. C'est une partie de la pratique votive romaine. Un premier exemple qui nous intéresse est cette défiction-ci, qui souhaite que Magna Mater inflige toute une série de châtiments à une certaine Gemella qui a volé, j'ai fait la traduction, qui a volé les fibules, les épingles à nourrice par lesquelles on attache les vêtements, de la dame qui prononce la formule et qui enfuit ou fait enfuir cette lamelle. Elle prévoit que Gemella produira aussi un contre-sort contre elle-même, parce qu'elle se doute de ce qui va être fait, en promettant autre chose à Mater Magna. Et pour cela, Notre-Dame demande à la déesse de ne pas permettre que Gemella se rachète de son noumen, de son pouvoir divin. Et c'est pour cela, je voulais souligner, c'est pour cela que je vous signale ce texte. Le concept divinisé du vouloir et du pouvoir divin est une notion théologique bien connue. Même si le latin de Notre-Dame ou de celui qui a dicté cette formule n'est pas celui de Cicéron, elle connaît très bien la langue du culte quotidien, normal. C'est ce que demande aussi ce texte-ci, rédigé contre quelqu'un qui a volé de l'argent. D'abord, on note que l'auteur, je vous donne tout de suite la traduction, on note que l'auteur de la défiction espère que le coupable doit venir et dire qu'il a commis le méfait. Il impose donc au coupable une confession publique, comme sur les stèles de confession de Lydie et de Phrygie, qui de ce fait apparaissent un peu moins exceptionnels qu'on le dit. Les coupables peuvent donc être contraints de confesser leur faute en public par une prière magique à laquelle est censée réagir une divinité romaine tout à fait traditionnelle, mettons Cybèle, puisque Bellone est citée dans le texte. Vraisemblablement, il s'agit de Cybèle. Ensuite, la phrase suivante est tout à fait passionnante. en passant, bien entendu, sur la piété particulière du vœu que fait l'auteur du texte. « Je te donne, conformément à l'obligation rituelle, la tâche de me condamner à mes vœux, et j'y répondrai content et de bon cœur si tu tires de lui une mauvaise mort. » Ou si tu as tiré, j'ai mal copié. Ce qui est très intéressant, c'est « demando, je te délègue, tibi, religione, en raison de l'obligation religieuse ». Pour parler comme cela, il faut connaître un peu de ritualisme romain. « Ut me votis condamnas », pour que tu me condamnes à mes vœux. C'est une formule ultra connue dans les milieux de prêtres, etc., où on prie toujours pour qu'on soit condamné à ses vœux, c'est-à-dire condamné à acquitter ses vœux, à remercier la divinité, parce qu'elle a assuré ce à quoi on est attaché, si vous voulez, à ce qu'on veut avoir. « Et ut laetus libens et a tibi referam » et que je te rapporte tout cela, que je te donne tout ça joyeux de bon cœur. Hein. Laetus libens, c'est une formule votive tout à fait courante que vous pouvez trouver par des milliers d'exemplaires sur les tombes. Beaucoup de nos étudiants ne seraient pas capables de traduire ce texte qui reflète pourtant des concepts centraux de la pratique votive. Religio signifie ici l'obligation rituelle créée par le vœu pour la déesse et pour le contractant, pour celui qui fait cette malédiction. Et grâce à cette obligation, Laurent peut lui déléguer une tâche, celle de faire périr le voleur après l'avoir fait confesser, et parallèlement de condamner l'auteur du vœu à s'acquitter, laetus libens, content et de bon cœur, de son vœu. Donc vous voyez que ce ne sont pas des ignorants qui font ces choses-là, des gens très bien informés, et ils n'ont pas besoin de la piété orientale pour faire leurs activités à la limite du droit pénal, hein, parce que si vous allez trop loin, vous avez affaire à la police. Pourtant, tout le monde le faisait. Nous sommes bien avant la date des papyrus magiques, et nous voyons donc que les pratiques de défiction, qui sont à mes yeux un élément de la piété individuelle, adopte en fin de compte le vocabulaire et les concepts de la religion quotidienne, officielle même. À leur place, ils en font partie. Mais cela, c'est une autre question. Ces exemples, je l'espère, vous auront convaincu que la référence géographique et chronologique d'un concept comme les cultes orientaux et les transferts cultuels sont plus complexes que Hegel et ses successeurs ne l'ont pensé. Les influences religieuses dans un sens et l'autre de la Méditerranée ont été multiples et il faut les considérer tous, pas seulement une sélection faite en fonction de théories préconçues dans le cadre d'une théologie chrétienne de l'histoire. Et l'on découvre alors que même des rites aussi décriés que le culte impérial ont fait un voyage en sens inverse en Méditerranée, en gros, à la même époque que la plupart des cultes dits orientaux ont pris le bateau dans l'autre sens, et puis sous une forme christianisée. Alors, ce culte s'est répandu dans tout le monde oriental, sous le Haut Empire, et sous une forme christianisée, il réussira même à survivre à Byzance, alors que les cultes orientaux, le judaïsme et les christianismes exceptés, étaient morts et oubliés depuis longtemps. Je vous remercie.